Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sounois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sounois Assurance. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certains voudraient déjà croire que la crise sanitaire est derrière nous. C'est le cas dans les régions où l'épidémie de coronavirus est restée contenue. C'est également vrai dans des pays comme la France qui ont connu des semaines difficiles voire critiques avant de rétablir la situation à la faveur de strictes mesures de confinement qui laissent encore aujourd'hui des traces dans nos vies. Mais cette pandémie, de par son caractère mondial, ce coronavirus, de par sa nature émergente, reste et demeure aujourd'hui encore une réelle menace pour la santé planétaire. Pas question de faire du catastrophisme, mais simplement de regarder les chiffres en face. L'épidémie s'accélère, 400 000 nouveaux cas recensés ce week-end, plus de 3 millions de personnes testées positives aux États-Unis, autant de cas en Amérique latine et aux Caraïbes, 500 000 cas pour l'Afrique, près de 540 000 morts depuis le mois de décembre. Melbourne en Australie qui se reconfine, même chose en Espagne, pic dans une zone de Catalogne où il est désormais obligatoire de porter un masque dans la rue. N'en déplaise à certains dirigeants du monde ou à certains médecins médiatiques qui s'auto-persuadent que tout va très bien, que le pire est dépassé, il convient de dire aujourd'hui une simple phrase qui, hélas, a été trop peu entendue ces derniers mois. On ne sait pas, des doutes qui invitent à l'humilité, au maintien des gestes barrières, car en situation d'incertitude, la moindre des choses, c'est de faire preuve de prudence. Énormément de sujets à aborder au cours de cette émission. Où en est l'épidémie? Pourquoi assiste-t-on à une flambée dans certaines régions? Comment l'aplatissement de la courbe des transmissions a-t-il été obtenu? Avec en toile de fond des questions pressantes sur la possible deuxième vague. Et avec nous en studio, professeur Arnaud Fontanet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, directeur de l'unité de recherche d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique en France, dont la mission vient d'être hier prolongée jusqu'au 30 octobre. Et vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Autre membre de ce conseil scientifique à qui nous allons donner tout à l'heure la parole, c'est Laetitia Atlani-Duo, anthropologue, initiatrice du projet Institut Covid-19 Ad Memoriam, qui a pour vocation d'évaluer les implications sociales de la pandémie. Nous retrouverons aussi en ligne de Yaoundé le professeur Yaboum II, directeur régional d'Épicentre, branche recherche épidémiologie de Médecins sans frontières. Il vient de co-signer une tribune pour un meilleur suivi, meilleure évaluation des cas et de la riposte sur le continent africain. Et puis on retrouvera également le reportage de Sarah Cosolino au Brésil et Stéphane Lagarde en ligne de Corée.
Priorité santé sur RFI.
Alors programme très chargé, actualité dense autour de cette pandémie. On avait commencé à en parler avec vous, professeur Arnaud Fontanet, c'était au début du mois de février. 3 février, ça semble loin, hein. On a traversé beaucoup de choses depuis, beaucoup d'événements. Alors effectivement, ce virus émergent avait retenu votre attention, notre attention. Le monde regardait alors une région précise de Chine se confiner, comme si c'était un petit peu extraordinaire, hein. Ça n'allait pas nous arriver. Eh bien si, on l'a vécu ici en France. Bien sûr, au cours de cette émission, il ne sera pas question de prévision, encore moins de prédiction, peut-être d'observation et de projection. Aujourd'hui, Arnaud Fontanet, on est le 9 juillet. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, chercheur épidémiologiste, face à cette pandémie?
Alors, il y a quand même quelque chose, un fait qui s'impose à nous. C'est qu'après avoir vécu une première vague épidémique d'ampleur majeure, hein, on a eu tous, on l'a vécu et on a réalisé quand même le désordre sanitaire dans lequel ça nous a plongé, toutes les souffrances qui ont été générées, on se rend compte que seulement 5 à 10% de la population des pays touchés a été infectée dans cette première vague épidémique. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Espagne qui vient de publier cette semaine une enquête de 60 000 personnes, 5% infectées. C'est le cas de la Suède, c'est le cas de tous nos voisins qui ont vécu des épidémies comme l'Italie, l'Espagne, similaires à la nôtre. Or, on sait, malheureusement, que ce virus s'arrêtera de circuler seulement quand au moins 50% de la population aura été infectée. Pour moi,
ça veut dire 10 fois plus que ce qu'on a connu.
10 fois plus que ce qu'on a connu. Je ne vois aucun argument rationnel qui me permette de dire que tant qu'on n'aura pas atteint ces 50%, si on laisse ce virus circuler, il ne va pas se remettre à le faire. Et dès lors, je suis malheureusement inquiet. Inquiet sur la période estivale qui nous attend, puisque on commence déjà à voir des frémissements dans des pays comme l'Espagne, qui ont vécu une situation très proche de la nôtre. Ils ont connu un démarrage d'épidémie foudroyant début mars, ils ont confiné de façon très stricte, ils ont cassé la circulation du virus. Ils se retrouvent comme nous à la fin de la première vague épidémique avec à peu près 5% de la population infectée. Et là, quelques relâchements en Galicie, en Catalogne, et ça repart. Donc, même situation pour la France, il faudrait être vigilant cet été. On peut espérer, et on pourra revenir dessus, que la période estivale soit un peu moins à risque. Mais ce qu'on voit maintenant dans des pays de l'hémisphère sud, où l'hiver s'est installé, comme l'Australie, comme l'Afrique du Sud, comme Madagascar, et où l'épidémie se remet à démarrer fortement, on voit que ce virus a effectivement un tropisme pour l'hiver. Et je suis donc inquiet qu'à la rentrée prochaine, parce qu'on n'a pas atteint l'immunité collective qui pourrait nous protéger, en octobre, en novembre, le virus se remet à circuler beaucoup plus activement dans l'hémisphère nord et en France. Et là aussi, il faudrait être extrêmement vigilant.
Alors, infection contenue, hein, cette fameuse courbe des contaminations, des transmissions qui s'est aplatie pour la France. Vraiment, quand on regarde l'image, c'est flagrant. Mais si on regarde d'autres régions du monde, professeur Arnaud Fontanet, c'est bien sûr ce qu'on va faire au cours de cette émission. On ne va pas s'arrêter au cas français. Le constat, là, est carrément inquiétant. L'OMS dit que l'épidémie s'accélère. Le pic de la pandémie, on l'a compris, n'est pas atteint, avec vraiment des régions qui sont en train, aujourd'hui, de vivre des situations très difficiles.
Non, c'est le cas effectivement. Malheureusement, on n'a trouvé que deux solutions pour combattre ce virus jusqu'à présent. Il y a eu des pays qui ont dû confiner en urgence comme la France. On n'avait pas le choix. Les services de réanimation se remplissaient extrêmement rapidement dans le Grand Est et dans le nord de Paris. On l'a fait et on a cassé l'épidémie, mais c'était le confinement qui a beaucoup d'autres conséquences, bien évidemment, et qu'on voudrait éviter. Et il y a quelques pays en Asie qui ont réussi à contenir la circulation du virus, mais au prix de mesures très fortes, prises collectivement, sur qui sont les mesures barrières, le port du masque, et qui sont des campagnes de dépistage, traçage de contact et isolement extrêmement énergiques. Si on fait tout ce package ensemble, on peut contrôler le virus. Quelques pays comme la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong y sont parvenus, mais c'est ça qui nous attend à l'hiver prochain. Et ça peut pas être des demi-mesures. Tous les pays qui sont restés dans les demi-mesures, soit qui n'ont pas fait de confinement total, soit qui n'ont pas appliqué ces mesures des pays que je viens de citer, se retrouvent avec des situations où inévitablement ça leur échappe. Et on l'a vu aux États-Unis, on le voit en Amérique latine et on le voit dans beaucoup d'autres pays actuellement.
Alors vous citiez la Corée du Sud, justement on va prendre la direction de ce pays d'Asie, puisqu'on retrouve tout de suite en ligne Stéphane Lagarde. Stéphane, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, envoyé spécial permanent à Pékin, vous êtes donc dans ce pays de la région, la Corée du Sud. Cette fameuse deuxième vague, Stéphane Lagarde, dont personne ne veut, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la région Asie y est d'ores et déjà confrontée ?
Alors, je viens de vous écouter, Caroline. Effectivement, ici, il y a débat, hein, de toute façon, entre les experts, mais pour plusieurs experts sud-coréens, la deuxième vague, on ne l'attend pas, on y est déjà, hein. C'est ce que disaient, encore une fois, des épidémiologistes de la semaine dernière, et cela suite à une série de nouveaux foyers d'infection qui se sont succédé sans discontinuer depuis des semaines maintenant dans des lieux de travail, un immeuble par exemple au départ, hein, un centre d'appel à Séoul, un entrepôt de livraison ensuite, mais aussi des lieux communautaires, on a eu des églises, des saunas et le fameux cluster des clubs d'Itaewon, hein, on en a parlé sur l'antenne des Réfis, donc il y a un mois, où des quartiers de nuit de Séoul, la capitale, qui a entraîné d'ailleurs une fermeture de ces établissements, ou en tout cas un renforcement des contrôles dans ces lieux dans ces bars, dans ces lieux de nuit, avec des QR codes, hein, de santé, où on est obligé de s'identifier. Enfin, il y a plusieurs mesures pour empêcher les gens de rentrer, en tout cas de rentrer pour voir s'ils sont contaminés ou non. On est aujourd'hui donc à plus de 60 cas par jour en Corée, donc une grosse moitié de cas importés quand même, dans une société, je le rappelle, qui n'a pas été confiné. Hein. Là, je parle de l'Asie orientale. Mmh. La Corée du Sud n'a pas confiné. On a continué de travailler ici. Et puis, crainte également, juste à côté, au Japon, où la gouverneure de Tokyo a conseillé la semaine dernière à tous les habitants de ne plus sortir la nuit dans les bars. Vous savez ce qu'on dit au Japon, c'est dans les lieux où on parle, où on chante, enfin, les lieux où on s'exprime, finalement, où on risque l'infection. Et un infectiologue, Akihiro Sato, hein, j'ai pris des notes avant de vous répondre, parle, lui, d'une très forte probabilité de deuxième vague, à 90%, hein, dit-il, à l'automne ou même avant. Donc, encore une fois, dans cette cette Asie orientale, on s'inquiète et en tout cas, il y a débat. Certains disent qu'elle est déjà là, la deuxième vague, ou d'autres disent qu'elle va arriver.
Alors, je comprends bien, vous êtes privé de karaoké. Pékin, il y a eu un nouveau foyer le mois dernier. Hein, on a parlé d'un autre marché, même si les autorités ont annoncé il y a quelques jours, mercredi, retour à zéro cas de Covid dans cette capitale chinoise. Malgré tout, Stéphane, toujours des restrictions sur place.
Oui, alors s'il y a un pays vraiment, c'est le pays d'ailleurs d'où est partie la pandémie, on s'inquiète. C'est même plus de l'inquiétude, hein, j'allais dire, en Chine. Hein. Les autorités chinoises sont terrifiées par cette deuxième vague. Il y a un mois, eh bien la découverte de ce nouveau foyer dans un marché de gros, un marché agricole de Chine Fadi, a entraîné effectivement des restrictions comme on n'avait pas vu depuis 21 semaines. Hein. Moi, mes amis m'ont dit, on revient dans ce qu'on a connu en février dernier. Donc ça voulait dire des salles de sport fermées, des parcs fermés, beaucoup de contrôles, les restaurants, tout ça, enfin tout était fermé. Et puis surtout des contrôles de température à l'entrée des résidences, ces QR codes aussi santé appliqués partout. On est vert, on est rouge, on peut avancer ou non. Donc, et puis encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, les frontières chinoises sont quand même extrêmement contrôlées, les frontières de Pékin encore plus. Vous savez, aujourd'hui, si on veut prendre un avion, il faut d'abord trouver un billet d'avion, il faut avoir un visa, puisque les visas ont été suspendus quand on vient de l'étranger, pour aller à Pékin. Eh bien, on n'atterrit pas à Pékin, hein, on n'atterrit plus à Pékin. Depuis le mars dernier, on atterrit à Rorot, donc en Mongolie intérieure, ou à Tianjin, sur la côte est, ou même plus loin, on atterrit à Qingdao, dans le Shandong, donc on n'atterrit plus directement. Donc il y a des mesures, effectivement, extrêmement renforcées, qui continuent d'être renforcées, même si on est revenu à 0,4 Covid, et pour les autorités chinoises, l'objectif, c'est évidemment que ça ne recommence pas le coronavirus, et donc on a cet objectif qui me paraît, moi, difficilement, il faudrait voir avec le professeur Fontanet, mais difficilement tenable d'un pays à zéro Covid, en tout cas, tant qu'on n'a pas le vaccin.
En tout cas, ça change la vie, vous, en Corée du Sud, Stéphane, vous le constatez. On est là aussi à la période, pour certes, une partie de la population, des vacances. Vous êtes dans l'une des stations balnéaires du sud de cette péninsule. Racontez-nous la plage, les vacances 2020, est-ce que ça ressemble à la plage, les vacances 2019?
Ben c'est pas vacances, j'oublie tout, Caroline. En tout cas, c'est pas vacances, j'oublie le corona. Hein.
Mais moi, cette insouciance, elle peut être risquée.
Voilà, c'est ça. Il pleut un peu, donc on est revenu de la plage maintenant. Là, je viens de rentrer, mais tout à l'heure, bien, il y avait les haut-parleurs. Les banderoles partout, et même à l'entrée de la plage, hein, tout simplement, il y a une petite table à toutes les entrées de la plage avec des volontaires masqués sous un parasol qui vous prennent la température frontale. Et puis on vous dit bien sûr d'éloigner les parasols, hein, ils sont moins à 2 mètres de distance. Donc effectivement, dans les supérettes, vous voyez des gens masqués. Alors évidemment, les gens qui viennent de Séoul ou moi qui viens de Busan, on est presque plus inquiets que les autres. On a le masque quand on sort pour pas effrayer les gens justement. Ici, ils n'ont pas eu dans cette région, ils ont eu très peu de Covid, donc ils s'inquiètent un peu des personnes qui arrivent. Donc effectivement, il n'y a pas un endroit ici où on ne rappelle pas les mesures de distanciation sociale qui ont tendance, comme partout, hein, effectivement, parce qu'il y a beaucoup moins de cas en Corée. Là, on vient de le voir, ça vient d'arriver. Il y a eu un sondage qui a été fait, enfin, je ne sais pas si on appelle ça un sondage chez les scientifiques, mais 3500 personnes ont été testées au hasard, pas sur la base du volontariat à Séoul, et il y a eu seulement une personne qui présentait des anticorps, donc ça veut dire qu'on est à peu près dans les taux globaux, hein, de contamination, donc c'est encore faible en Corée, hein, je sais pas, là, c'est 0,03% si je note bien ce que je viens de lire. Et donc, on a 13 004 contaminations en Corée du Sud depuis janvier dernier et moins de 300 cas de décès sur 52 millions. Donc, malgré ces chiffres qui sont quand même très relativement bas, hein, par rapport à d'autres régions, hein, évidemment, par rapport aux États-Unis, par exemple, eh bien, on est toujours dans la crainte, en tout cas, que ça recommence, quoi.
Stéphane, je sais que vous êtes toujours en quête des dernières informations sur le coronavirus. Je vous laisse poser une question au professeur Fontanet. Allez-y.
Ah oui, j'en aurais beaucoup pour le professeur Fontanet.
Non, mais là, c'est moi qui les pose, les questions, hein, Stéphane, oui, Lagarde, allez-y.
Je sais bien. Je voyais que l'OMS revenait, et puis il y avait une étude scientifique sur les aérosols, le fait que la contamination se fasse par aérosol. Et moi, j'ai pas l'impression que c'est nouveau, professeur Fontanet. J'ai l'impression qu'on parle de choses qu'on avait déjà entendues, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose dont il faut s'inquiéter aujourd'hui?
Alors, c'est... quelque chose, en tout cas, qu'on a découvert avec ce nouveau coronavirus. Hein. On était sur des modèles d'infection respiratoire transmises par des gouttelettes. Et depuis maintenant 2 mois, on se rend compte que ce nouveau coronavirus, hein, c'est ce que je disais juste en introduction de cette émission, peut être transmis par ces fameux aérosols. Parce que ce coronavirus, il est présent dans la gorge des patients. Le coronavirus du SRAS de 2003, il était dans le fond des poumons. Pour le sortir, il fallait tousser. Là, on a des concentrations qui peuvent être jusqu'à 1000 fois supérieures dans la gorge de ce nouveau coronavirus comparé à ce qu'on avait pour le coronavirus du SRAS 2003. Et dès lors, des gens qui ont ces concentrations extrêmement élevées, en parlant, peuvent émettre, y compris dans ces particules extrêmement fines de quelques microns qui s'aérosolisent des virions, des virus qui peuvent être contagieux. Et ça fait qu'en milieu confiné, ces aérosols peuvent rester en suspension dans l'air et infecter des personnes à une distance plus lointaine que le fameux mètre du postillon. Et c'est ce qui, votre reportage, moi j'ai trouvé passionnant parce qu'il nous permet de cocher beaucoup de cases. D'abord, on parle de deuxième vague en Corée, mais vous parlez aussi de 60 cas par jour, dont la moitié sont importés.
Très limité.
En France, on est à 500 à 1000 cas par jour. Donc vous voyez qu'on est quand même pour des populations de taille à peu près similaire, à des ordres de grandeur très différents. Ce qu'ils appellent une deuxième vague, c'est quelque chose qui serait déjà en France vécu comme l'anéantissement du virus. Et qui montre aussi que la tension, elle reste permanente. Mmh. C'est-à-dire que c'est toujours cette histoire. Tant que vous avez aussi peu de personnes infectées, vous êtes très loin de cette immunité qu'on qualifie de troupeau, qui est un terme emprunt de pris de l'épidémiologie vétérinaire, qui nous protégerait. Et donc, c'est des mesures extrêmement fortes comme celles que vous décrivez, qui permettent de maintenir à un niveau si bas la circulation du virus et de continuer d'avoir une vie sociale et économique pour éviter un confinement. Mais on voit toute la difficulté. Et enfin, pour la Corée, ce que vous disiez que je trouvais aussi très intéressant, c'est que les lieux où il y a eu des démarrages des foyers, c'est des lieux confinés. Et on revient à ces fameux aérosols. C'est des lieux fermés où des personnes, alors la discothèque est évidemment le nightclub un exemple, mais tous les autres que vous citez sont des lieux fermés, les églises évangéliques, hein, et la Corée avait connu un démarrage d'épidémie qu'ils ont pu contenir en début février dans une église, où donc on retrouve finalement le prototype de ce que cette épidémie peut donner, cette circulation de virus peut donner, et c'est des mesures comme celle de la Corée, très contraignantes, qui permettent de continuer d'avoir une vie sociale et économique, mais il faudrait qu'on les accepte, et je pense que chez nous, il y aura du travail à faire encore pour qu'on accepte d'aller aussi loin dans les mesures de contrôle.
Vous parlez de ces aérosols, professeur Fontané, qui restent en suspension. On sait combien de temps ils restent, on va dire, actifs, dangereux, si par exemple je me mets à chanter. Demain, je reviens, ça a disparu, mais dans une heure, est-ce que c'est toujours là?
Alors, c'est là où on a des données qui sont pas encore bien établies. On parle, selon les études, de une heure à plusieurs heures, mais c'est très... Après, ce qu'on peut détecter facilement, c'est de la trace du virus, sa trace génétique dans ces aérosols, ce qu'on ne sait pas si c'est du virus qui est encore vivant et infectieux. Mais, en tout cas, le fait que des... clusters en milieu confiné sont vraiment des moteurs de l'épidémie, ça c'est complètement établi maintenant, et c'est ce qui nous fait penser que les aérosols jouent un rôle plus important que ce qu'on imaginait au début, où on pensait que ce serait un mode de transmission exceptionnel. Et maintenant, ce que vous nous avez raconté sur Pékin, je ne sais pas si il est toujours en ligne.
Toujours, je crois toujours là.
Donc, mais ce que vous avez raconté sur Pékin est très intéressant aussi, parce que Pékin, ils ont choisi une attitude différente hein, sur la lutte contre l'épidémie. C'est le bazooka pour viser une mouche. C'est-à-dire que là, ils ont eu un marché avec 300 personnes infectées au total. Ils ont testé 11 millions de personnes. Ils ont alors appliqué des mesures. Ils ont fait la même chose à Wuhan il y a quelques semaines. Hein. Pour 5 cas détectés, ils ont testé 9 millions de personnes. Et après, ils restreignent la circulation des gens avec effectivement vos smartphones qui vous disent si vous êtes passé dans des zones où on pense que le virus a circulé ou pas. Ça, vous le savez après coup. Et puis, selon la couleur de votre smartphone, du vert au rouge, et ben vous avez le droit de bouger ou pas. C'est des approches qui sont... pour nous complètement surréaliste, mais là aussi, à Pékin, ils ont réussi à stopper un cluster qui avait démarré il y a 3 semaines. Mais alors, vous voyez 11 millions de personnes testées en quelques jours, et puis vos smartphones activés et qui vous disent si vous pouvez vous déplacer ou pas.
Pas forcément facile d'appliquer ça partout. On vous remercie infiniment, en tout cas Stéphane Lagarde, hein, pour votre regard d'avoir été en direct avec nous de Corée du Sud. À très bientôt dans les journaux de RFI. On comprend bien cette différence des attitudes très vigilantes, ailleurs davantage d'insouciance. C'est lié au mode de vie, il y a cette dimension culturelle qui est aussi essentielle dans la riposte, Arnaud Fontanet.
Alors, il est vrai que, il y a une dimension culturelle sur laquelle je ne m'épancherai pas parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise. En revanche, sur l'expérience des épidémies à virus respiratoire, la Corée du Sud avait été très marquée par l'épidémie de MERS qu'ils ont connue en 2015, où il y avait eu un foyer très important qui s'était développé, et d'une certaine façon, ils s'étaient dit plus jamais ça. Donc je pense que la vigilance que la Corée du Sud a pu acquérir dans la lutte contre des virus respiratoires, et notamment les coronavirus, elle vient de cette expérience de 2015, et puis la Chine, c'était 2003.
Mais j'ai envie de vous répondre, regardez, on vient juste de le vivre en France, apparemment l'expérience n'a pas vraiment servi pour le coup, pour une partie de la population, quand on se promène dans des rues de la capitale. Au début, les premiers jours du déconfinement après le 11 mai, effectivement, on gardait ses distances. il n'y avait pas forcément de masques parce qu'on avait encore du mal à en trouver. En tout cas, on gardait des distances. On se promène maintenant dans des rues populaires. Tout le monde est rapproché. Il n'y a plus ces distances. Elles sont plus là.
Alors malheureusement, on n'a pas encore vu le fin mot de l'histoire de cette épidémie. Pas simplement au plan sanitaire, puisque comme je vous le dis depuis le début de cette émission, je suis vraiment inquiet sur la suite. Mais également, on va comprendre dans les mois qui viennent les souffrances liées à la crise économique majeure. Mais ça, je suis pas non plus un spécialiste pour en parler.
On en parle dans d'autres émissions.
Mais c'est évident qu'elle nous arrive dessus. Quand on fera le bilan à un an de tout ce qu'on a traversé à cause de ce nouveau coronavirus, je pense que si une menace du même type se représente dans quelques années... Là, il y aura eu une mobilisation, d'abord parce qu'on saura beaucoup mieux faire. Hein. On aura appris sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. On aura les moyens de se défendre beaucoup plus rapidement. Mais aussi, je pense que dans les consciences des populations, l'année qu'on vient de vivre, mais qu'on n'a pas fini de vivre, restera un traumatisme. Et c'est terrible qu'on doive passer par des crises pareilles pour apprendre. Mais malheureusement, je pense que ce sera nécessaire.
Justement, ce retour d'expérience, on en parle tout de suite.
Priorité santé sur RFI.
Réfléchir sur les implications sociales de la pandémie, c'est la vocation justement de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, le Ad Memoriam dont vous êtes présidente. Laetitia Atlani-Duo, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Ça fait plaisir, anthropologue, directrice de recherche à l'IRD. Comme le professeur Fontanet, vous êtes membre du conseil scientifique sur ce Covid-19. Alors vous êtes spécialiste des crises humanitaires, savoir comment est-ce qu'on réagit en situation hors normes, on l'a compris, c'est vraiment ce qu'on vient de vivre, notamment ici en France. Alors justement, vous êtes entouré de qui, de quels spécialistes pour comprendre ce que cette épidémie a fait vivre et a changé dans notre société?
Alors merci, oui, en effet, ce nouvel institut Covid-19 Ad Memoriam a la spécificité de réunir des gens qui viennent de mondes très différents, de mondes multiples, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, ou en tout cas pas forcément l'habitude de fabriquer du commun ensemble. Et donc nous avons avec nous des chercheurs, beaucoup de chercheurs en sciences sociales, des chercheurs sur les questions de santé, de droit et de justice, mais nous avons aussi des soignants, des entrepreneurs, des représentants des cultes, des grandes communautés religieuses de France, beaucoup d'associations, des associations de victimes, par exemple, France Victimes, des associations plutôt liées aux questions de grande précarité ou de pauvreté, on pense en particulier à Télé Carmonde, et puis aussi beaucoup d'artistes, beaucoup de professionnels du monde des arts et de la culture qui nous ont rejoints. Et donc l'idée, c'est d'essayer de réunir dans cette plateforme, hein, une plateforme de recherche avant tout, des gens venant de mondes multiples, apportant des perspectives très différentes pour essayer de réfléchir en prenant le temps long de la réflexion à l'impact sociétal de Covid-19 sur la société française.
C'est un travail de partage, d'échange, de questions, de débat entre vous, où vous travaillez sur un matériau, sur des documents, sur des témoignages qui sont restés imprimés, où vous allez peut-être à la rencontre des acteurs, leur poser des questions, je ne sais pas. Comment est-ce que vous faites ce travail?
Alors tout ensemble, encore une fois, nous venons de lancer cette initiative il y a 3 semaines. L'objectif est double. D'abord, de créer une plateforme d'accès aux multiples projets de recherche qui sont en cours aujourd'hui sur l'impact sociétal de la pandémie. Il y en a beaucoup. Il y a une fragmentation, il y a une dispersion de ces projets. On n'a pas encore accès, évidemment, aux résultats. Ils sont en cours. Mais l'idée, c'est de pouvoir permettre, par la plateforme, d'avoir accès à ces projets, aux résultats, et de pouvoir croiser les informations de manière à produire une réflexion la plus fine possible. C'est le premier axe de cet institut, une plateforme de recherche qui permettent un accès à tout ce qui se fait actuellement. Et les projets sont nombreux et très riches. Ça permettra de décloisonner aussi un peu ces mondes qui ne travaillent pas, encore une fois, ensemble souvent. Le deuxième axe, c'est vraiment focalisé sur la production de réflexions sur des sujets spécifiques, par une série de conférences, de colloques, de séminaires. Pour donner quelques exemples, on a déjà lancé une série de conférences. Il y en a une qui va se tenir en janvier avec l'école Normale Sup sur donc l'ENS, hein, et l'Institut Covid-19 Ad Memoriam sur les SHS et le Covid-19, qui va s'appeler Mémoire et Traces, où on va essayer de réfléchir justement aux questions d'oubli, de mémoire, de traces du Covid-19 dans la société française et dans le monde plus largement. Mais nous avons aussi avant
pourquoi,
janvier...
Pourquoi pour vous cet oubli pourrait être dangereux, justement? Il serait dangereux en termes de mémoire, mais au-delà, est-ce qu'il peut être dangereux en termes de riposte sanitaire?
On voit déjà hein, à quel point finalement les Français sont passés à une autre phase.
En même temps, on peut le comprendre, c'est un petit peu un instinct de survie. On a vécu des choses difficiles, on a envie de passer à autre chose. Mais justement, c'est passons à autre chose, mais n'oublions pas, c'est ça un petit peu la toile de fond de votre démarche?
Tout à fait. On pense à d'autres crises, des crises sanitaires. On pense évidemment aux grandes épidémies, peste, choléra, la grippe espagnole, etc. Mais on pense aussi à d'autres ruptures de type guerre mondiale, Shoah, attentat. Et les sociétés, en particulier les sociétés européennes, ont aujourd'hui un devoir de mémoire sur ces grandes ruptures qui ont pu secouer nos sociétés. Et le fait de se souvenir et de se souvenir encore une fois de manière collective en associant des mondes multiples va pouvoir, on l'espère, tenter de maintenir la société française unifiée autour de valeurs qu'il s'agira de choisir et de construire collectivement. Donc c'est très important ce devoir de mémoire et la construction ensemble de pratiques commémoratives, par exemple, qu'il s'agira de construire dans les mois qui viennent. Et aussi, sachant que nous sommes toujours en pleine pandémie. Hein.
Bien sûr, pour aussi apprendre à essayer de cicatriser après les traumatismes. On vous remercie beaucoup, hein, Laetitia Atladine-Duo, d'avoir éclairé sur cette plateforme de recherche. On va poursuivre notre échange. Pour cela, on va accueillir un autre invité. On rejoint tout de suite le Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Et on vous retrouve, professeur Yaboumdeu, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de signer une tribune, un appel pour que ne soient pas négligés les moyens destinés à évaluer l'épidémie de Covid-19 en Afrique. Hier, hein, l'OMS, c'était juste hier, l'Organisation mondiale de la santé a évalué à 500 000 le nombre de contaminations sur le continent africain. 500 000 cas, 12 000 morts. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le Covid-19 a tué en Afrique davantage que la pire épidémie d'Ebola que tout le monde garde en mémoire, hein, celle qu'avait connue l'ouest du continent entre 2014 et 2016. Et j'ai envie de vous dire, pourtant, professeur Yaboumdeu, on perçoit une forme de déni. À chaque fois qu'on publie, par exemple, sur le site RFI, un état des lieux du Covid en Afrique, eh bien, beaucoup, pour ne pas dire juste des messages hostiles qui nous disent « c'est bien pire en Europe », ce qui est vrai d'ailleurs, mais aussi « vous nous aviez annoncé le pire, on n'a rien vu venir ». Comment est-ce que ça vous fait réagir?
Mais écoutez, je pense que, premièrement, ce que vous appelez déni, c'est vraiment le fait de se rassurer en disant que l'hécatombe qui était prédite n'a pas eu lieu.
Et ce qui est vrai,
ce qui est vrai. Donc maintenant, on bascule entre l'afro-pessimisme, l'afro-optimisme, mais moi j'ai envie de vraiment être réaliste et objectif. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'Afrique aujourd'hui, c'est des façades différentes. Hein. Plus de la moitié des cas sont retrouvés en Afrique du Sud. Et contrairement à des pays comme l'Ouganda, comme le disait le professeur Arnaud Fontané, c'est des pays qui ont mis en place des mesures assez restrictives en termes de mesures barrières. Et donc, ils se retrouvent aujourd'hui avec un nombre de cas au moins de 1000. Maintenant, ce qu'on voit quand même, c'est une transmission communautaire plutôt urbaine. Donc, les grandes villes, Lagos, Johannesburg, Yaoundé, Kinshasa et autres, avec des transmissions rurales relativement limitées, mais qui sont quand même présentes. Le Cameroun, par exemple, c'est 10 régions qui sont en épidémie, même s'il est vrai que les principales sont les grandes villes, Yaoundé et Douala. Donc, il y a vraiment ces différences entre les pays avec des taux d'attaque, pour dire plus simple, la vitesse d'accumulation de nouveaux cas. En Afrique du Sud, on est à près de 400, alors qu'au Niger, on est à peu près 3. Donc, quelque part, il y a cette disparité, mais il y a quand même des points communs dans les pays africains. Les nombres de reproduction, qui sont le nombre de personnes qui sont contaminées par les cas, on est autour de 1, 1,5, alors qu'en Europe ou en Chine, on est autour de 2, entre 2 et 4. Ce qui explique cette épidémie qui, finalement, n'évolue pas de la même manière. Maintenant, l'autre point, c'est la mortalité. Et je pense que c'est là où les Africains peuvent avoir ce sentiment de déni, c'est que finalement, on a une mentalité qui est inférieure à 3% dans la majeure partie des pays. Au Niger, on est plutôt autour de 6%, mais globalement, on est largement en deçà de ce qui était attendu. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les pays, on la comprend mieux. On sait que la moyenne d'âge dans les pays africains, particulièrement le Cameroun, la RDC, c'est entre 13 et 40 ans. Et ceux qui décèdent sont plutôt autour de 60 ans, et notamment ceux qui ont des comorbidités. Donc il y a une meilleure compréhension de l'épidémie qui est hétérogène, diverse en fonction des pays.
Avec quand même des chiffres qui ont pu étonner, qui ont pu désarçonner. On avait au départ les appels très alarmistes, par exemple, de la branche Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Professeur Arnaud Fontané, est-ce que vous-même, épidémiologiste, chercheur, vous avez un petit peu été surpris par l'évolution de l'épidémie sur le continent africain ?
Oui, tout à fait. Au tout début, donc, on ne savait pas du tout quelle trajectoire l'épidémie allait prendre. Comme le résumait très bien le professeur Yaboumde, ce qu'on voit actuellement, c'est une épidémie qui, quand même, continue. Moi, c'est le seul élément qui m'inquiète, hein, c'est que ce fameux nombre de reproductions estimé entre 1 et 1,5, ça veut dire qu'il est supérieur à 1, veut dire qu'inexorablement, on voit le nombre de cas augmenter. Alors que jusqu'à présent, pour beaucoup de pays, il y avait eu des mesures de confinement mises en place qui vont vraisemblablement être lâchées si en plus il y a une attitude de déni qui s'installe dans la population. Et ce qui me ferait très peur, c'est des circonstances aggravantes qui peuvent accélérer le démarrage de foyers qu'on a déjà cités, qui sont notamment les rassemblements. Mmh. Alors ce qui sert vraisemblablement beaucoup de nos concitoyens qui vivent en Afrique, c'est que les lieux confinés sont probablement plus rares. Mmh. Alors qu'on a vu que c'est un des endroits où l'épidémie se propage rapidement. Mais le simple fait quand même qu'on soit sur une trajectoire ascendante, même si elle est lente, à un moment où des mesures de contrôle de l'épidémie étaient prises, hein, et généralement assez bien respectées, me fait craindre qu'au moment où ces mesures vont se relâcher, l'épidémie peut s'accélérer. Et puis, il y a une situation très différente de l'Afrique du Sud, où là, on est en période hivernale et où on a une épidémie. Et on sait, par rapport aux épidémies de grippe, hein, notamment, que l'Afrique du Sud connaît des épidémies de grippe classique, alors que les pays en zone intertropicale, il y a une circulation un peu endémique toute l'année, mais il n'y a jamais vraiment d'épidémie marquée. Mais ça, je pense que le professeur Yaboumde pourra nous en dire plus. Il doit certainement mieux savoir que moi.
Alors justement, il y a plusieurs choses. Il y a la tendance, il y a l'accélération du nombre de cas. Et puis une autre inquiétude, là, qui est liée directement au contexte médical et sanitaire. D'ailleurs, en France, c'est ce qui a un petit peu servi de repère et de signal d'alarme. C'était la capacité hospitalière à faire face à ce type d'épidémie. C'est ce qui a fait peur pour l'Afrique, parce que déjà, c'est compliqué, que ça n'aggrave encore davantage la situation. Pour revenir à la situation française, et on pourra faire un parallèle après si vous le voulez bien, professeur Fontanet, est-ce qu'aujourd'hui on regarde encore cette capacité hospitalière pour dire là il faut confiner, là il faut reconfiner bien sûr sur des zones restreintes, ou aujourd'hui on va regarder autre chose comme le nombre de cas, comme l'apparition de clusters? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, on agit différemment?
Alors aujourd'hui on est beaucoup plus en amont. On a une fois de plus, hein, la période de mars, on a été surpris par la rapidité avec laquelle l'épidémie s'est développée et il y a eu des événements qui ont accéléré, hein, ce développement de l'épidémie. Le rassemblement évangélique de Mulhouse a contribué à la bascule du Grand Est dans une épidémie majeure. Donc ça a contribué à cet effet de surprise. Mais aujourd'hui, on dispose d'autres outils. Aujourd'hui, on est capable de tester jusqu'à 100 000 personnes par jour. Ces résultats sont disponibles le jour même, centralisés sur une plateforme qui s'appelle CIDEP, et nous donnent un indicateur. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a 500 diagnostics faits tous les jours. Je vous ai dit, il y a une sous-estimation, parce que toutes les personnes qui ont des symptômes ne vont pas nécessairement se faire tester. Il est très important que les gens qui ont des symptômes continuent aujourd'hui à se faire tester, parce que c'est notre seule chance de pouvoir suivre l'évolution de l'épidémie. Puis il y a ces personnes qui n'ont pas de symptômes, mais qui sont infectées quand même, hein, les fameux asymptomatiques, qui eux ne développeront d'ailleurs jamais de symptômes. Ça pourrait être de 20 à 40% des adultes et plus de la moitié des enfants, et qui nous échapperont toujours. Mais on a quand même cette mesure en temps réel sur les cas diagnostiquer, qui nous permet de suivre l'épidémie de beaucoup plus près, sans attendre de voir le nombre de personnes hospitalisées augmenter ou le nombre de personnes qui arrivent en réanimation augmenter, ce qui est en général décalé de 10 à 15 jours.
Alors on a dit situation qui est plutôt rassurante au moment où on parle en France. Par contre, si on parle de la France métropolitaine, si on regarde la situation Guyane, où va d'ailleurs se rendre le nouveau Premier ministre ce dimanche, professeur Fontanet, comment on explique cette flambée dans cette collectivité territoriale d'Amérique du Sud? Sur place d'ailleurs, contrairement à la France qui va abandonner l'état d'urgence sanitaire demain, sur place, l'état d'urgence sanitaire est maintenu.
Alors la Guyane, c'est une situation très particulière déjà par la distribution de sa population. C'est un pays qui est de très grande taille, mais où la population est très concentrée le long de fleuves et puis sur la côte. Et il y a Cayenne. Et il y a eu notamment au début des cas qui arrivaient plutôt du Suriname, mais maintenant c'était des cas qui arrivaient du Brésil, sur donc la partie plus à l'est de la Guyane, où on a vu le nombre de cas augmenter, puis c'est arrivé sur Cayenne. Et l'inquiétude forte qui s'est des autorités sanitaires locales était la capacité en nombre de lits de réanimation qui est limitée pour une population qui doit être peut-être autour de 300 000 personnes. Je dis ça sans être absolument sûr, mais limitée. Et de fait, il y a eu à la fois quelques évacuations qui ont été faites sur les Antilles et puis aussi des renforts qui sont venus de la métropole pour aider nos collègues guyanais localement à prendre en charge les patients. Mais il y a eu deux phases. Il y a eu une toute première épidémie qui a eu lieu dans les suites immédiates d'ailleurs en mars. C'était des personnes qui étaient à ce fameux rassemblement évangélique de Mulhouse qui sont arrivées à Guyane. Oui. Ça a été bien maîtrisé. La deuxième vague qui est arrivée par le Brésil a été beaucoup plus difficile à contenir.
Justement, on va passer la frontière. Le Brésil, deuxième pays le plus touché par le coronavirus après les États-Unis, 68 000 morts, 1 700 000 cas. Le président brésilien qui, très longtemps et encore aujourd'hui, minimise la pandémie, il parlait même d'une grippette, a été testé positif. Sur place, pas de signe concret d'amélioration. Et pourtant, les activités reviennent à la normale. Et ce relâchement, ça préoccupe vraiment la communauté scientifique. Reportage de Sarah Cozzolino.
Des bars noirs de monde avec des personnes sans masque qui ne respectent pas les règles de distanciation sociale. Les images tournées ce week-end dans le quartier chic de Leblon ont choqué une partie des habitants de Rio en pleine pandémie.
C'est exactement ce dont le virus a besoin, de contact, de personnes qui discutent, qui soient proches. C'est comme ça qu'il se transmet. Donc, sans quarantaine, il va se propager et tuer plus de gens.
Alan Meireles est médecin et travaille dans les unités de soins intensifs de Covid-19 de 4 hôpitaux de l'état de Rio.
Nous ignorons ce qu'il va se passer dans une vingtaine de jours, parce que nous venons de rouvrir les commerces à un moment où nous n'aurions pas dû le faire, mais aussi parce que quelques semaines auparavant, nous avons enregistré une augmentation de nouveaux cas.
Le médecin dénonce le choix de la mairie et les pressions du gouvernement qui préfère, selon lui, sauver des entreprises plutôt que des vies.
Aucun pays démocratique et civilisé dans le monde n'a réouvert les commerces et mis fin à la quarantaine comme le fait le Brésil. C'est une mesure qui n'a aucune justification scientifique, aucun soutien médical.
Cette semaine, les bars et restaurants ont aussi rouvert à Brasilia et São Paulo. Les grandes villes mettent en place un plan graduel de reprise des activités tout en ignorant la communauté scientifique. Ligia Bahia, spécialiste en santé publique à l'Université fédérale de Rio, estime qu'au Brésil, la situation est complètement hors de contrôle.
Nous nous situons à un plateau très élevé de nombre de cas et de morts et ce plateau se maintient à ce niveau élevé à plus de 100 jours du début de l'épidémie. Dans d'autres pays, à partir du 80e ou 70e jour, cette courbe commençait à décroître. Or, ce n'est pas le cas au Brésil et nous avons encore un taux de transmission très élevé à 1,5, ce qui signifie que nous avons un virus qui circule librement.
Les dernières études épidémiologiques montrent que le virus s'est déplacé des grandes villes, les capitales des États brésiliens, vers l'intérieur des terres, c'est-à-dire les petites et moyennes villes, les campagnes et les réserves indigènes. Un phénomène naturel puisque l'épidémie n'a pas été contenue par des mesures de confinement strictes, mais très dangereux dans un pays continent comme le Brésil qui concentre énormément d'inégalités. Maria Amélia Veras est médecin épidémiologiste à São Paulo et fait partie de l'Observatoire indépendant sur le Covid-19.
Non seulement nous avons des poches de pauvreté, mais aussi des villes plus petites où le système de santé est bien plus précaire que dans les capitales. Par exemple, si on prend le pourcentage de lits en soins intensifs, les capitales des États concentrent autour de 25% de la population du pays, mais regroupent plus de 50% des lits en soins intensifs existants. Et Il y a des États, dans le nord du pays, où il n'existe pas un seul lit en soins intensifs en dehors de la capitale. Donc, il est fort possible que la létalité soit bien plus élevée dans les villes de l'intérieur.
La scientifique nous explique que les données recueillies par l'Observatoire montrent clairement que l'épidémie de coronavirus a creusé les inégalités et le racisme structurel au Brésil.
Les personnes noires sont déjà en train de mourir plus. Celles qui ont le moins d'accès à l'éducation, qui sont les plus pauvres et qui vivent dans des régions ou quartiers où la concentration urbaine est plus dense.
Enfin, les experts rappellent que le Brésil subit aussi un phénomène de sous-notification dû au manque de tests, mais aussi un retard dans la notification des cas et des décès qui rendent impossible une vision globale de la situation en temps réel. Après la démission de deux ministres de la Santé, le pays se retrouve désormais sans ministre depuis 55 jours en pleine pandémie. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
L'avis des scientifiques négligé parfois par le pouvoir politique, c'est également ce qu'on constate aux États-Unis. Donald Trump lui dit ouvertement ne pas être du même avis que celui qui fait référence dans son pays pour l'épidémie, l'immunologiste Anthony Fauci. C'est aussi un des enseignements de cette crise sanitaire. L'expertise, la prudence des uns, les certitudes des autres. Ça vous inspire quoi, vous, l'épidémiologiste, professeur Yaboumdeu à Yaoundé, de voir un petit peu cette mise en porte-à-faux du savoir scientifique par les certitudes des politiques?
Ben, écoutez, c'est aussi pour ça qu'on a fait ces tribunes, hein, pour ramener le scientifique et la recherche au cœur de la réponse. L'idée, c'était vraiment pour nous, en tant qu'Africains, d'avoir des solutions qui sont spécifiques au continent. La même idée a été remontée par l'Académie africaine des sciences et l'African CDC en disant qu'on a besoin de stratégies particulières en termes de diagnostic, de vaccins, de thérapeutiques, mais aussi de sensibilisation. Tout à l'heure, Pascal Fontané mentionnait près de 100 000 tests réalisés par jour en France, une capacité. Quand je compare au Cameroun, depuis le début de l'épidémie, on en a fait 60 000. Et encore, là, en France, on parle de tests PCR. Et donc, ce qu'on a fait avec l'unité de recherche opérationnelle de la Task Force au Cameroun, c'est d'évaluer un peu l'opportunité de tests rapides, antigènes et anticorps, afin de trouver un algorithme permettant de pouvoir augmenter les capacités de dépistage tout en contrôlant la maladie. Donc, il y a ce genre de stratégie où la recherche apporte, il y a d'autres opportunités comme qui font des thérapies de profil type les personnes de santé.
La ligne se dégrade.
La prise en charge anticorps, c'est des synergies pour de trouver des solutions.
Hélas, la ligne se dégrade de façon vraiment très rapide. On raccroche, on vous rappelle tout de suite. Je me retourne vers Arnaud Fontanet. J'explique aux auditeurs un petit peu les détails techniques de notre émission. Sur ce défi, je ne sais pas si vous avez envie d'y revenir. C'est quelque chose qui peut être parfois compliqué à aborder. Peut-être que ce sera plus simple quand on aura quelques années de recul. Mais quand même, est-ce que quand on observe ce qui se passe à l'étranger, des fois, quand on est soi-même chercheur, soi-même médecin, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Alors, ce qui pour moi est assez choquant, c'est que certains pays ont vu ce qui s'est passé. Alors après, on pouvait se dire au début la Chine, on a fait cette erreur, hein, on s'est dit la Chine c'est très particulier et c'est un environnement très différent du nôtre, des densités de population beaucoup plus importantes, l'épidémie a démarré, ils n'ont pas réussi à contrôler le début, mais nous on y arrivera mieux. En revanche, quand on a vu ce qui s'est passé en Italie, ça a été un électrochoc pour toute l'Europe et la France.
Même s'il y a eu un petit temps encore où on regardait les Italiens en disant c'est chez eux, ça va pas passer. Et puis finalement, c'est arrivé.
Alors en tout cas, je peux vous dire que nos collègues réanimateurs étaient d'autant plus inquiets qu'ils savaient que les réanimateurs du nord de l'Italie avaient une très forte expérience dans le domaine du traitement des patients qui avaient des syndromes de détresse respiratoire aiguë. Et quand ils discutaient avec eux et que ces réanimateurs leur disaient c'est des pneumopathies inflammatoires, on n'a jamais vu ça, ils les ont pris très au sérieux. Alors après, c'est le petit club des réanimateurs français. Mais l'alerte a été donnée quand même chez nous, et la France et l'Espagne ont su très vite donc se dire, il faut confiner, on est face à une situation qui va devenir chez nous extrêmement tendue. Des pays qui ont plus attendu, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, pour moi, là, vraiment ont fait... ont été coupables de négligence, parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir... avec des structures sociétales qui étaient vraiment très similaires. Et les pays qui ont fait le pari de dire on va privilégier l'économie par rapport à la santé, sur un calcul très froid, que je dirais presque cynique, se sont finalement rendus compte qu'on n'y arrive pas. Parce que les souffrances que génèrent ces décès, ces patients en réanimation, etc., elles remontent à la surface de toute façon. Et même si à la fin vous prenez votre... calculette et vous vous dites finalement il n'y aura pas eu tellement plus de morts de ce nouveau coronavirus que de je ne sais quoi d'autre, d'autres maladies chroniques qui tuent, etc. C'est pas du tout la même perception au niveau de la société. Et l'impact économique va finir par se faire, même si vous vous êtes dit « je fais tout pour préserver l'économie ». Donc ce pari de dire « je néglige la santé pour l'économie », ben, il n'a pas marché pour les pays qui l'ont fait, ils ont perdu sur les deux plans.
Professeur Arnaud Fontanet, il y a encore énormément de choses à dire. J'aimerais qu'on parle, peut-être pour terminer, on donnera tout à l'heure aussi la parole au professeur Yaboum 2 pour parler de la recherche en Afrique. Juste du côté de la recherche, pas de médicaments efficaces pour l'instant, ça on le sait, et pourtant tellement d'espoir et tellement d'incompréhension de la part du grand public aussi. Là, il y a un effort de pédagogie essentiel à faire sur faire un vaccin, inventer un vaccin, ça prend du temps.
C'est le temps de
trouver un médicament, c'est long. Ça a été très long pour d'autres épidémies. Comment on le fait passer, ce message? Parce que là encore, quand on lit les messages des auditeurs de Priorité Santé, ils disent « mais que fait l'OMS? Où est le vaccin ?» On a l'impression que les gens tapent un petit peu du poing sur la table en disant « on nous abandonne ». Mais réexpliquer que tout ça, il faut être prudent et que ça prend énormément de temps.
Non, le temps de la recherche est long. Pour le sida, il a fallu 15 ans avant d'avoir des trithérapies. Pour l'hépatite C, découverte en 89, les traitements 2014, hein, on est aussi dans le même, dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, se dire qu'on va trouver un traitement contre un virus, alors qu'on sait que sur des virus respiratoires, on a très peu de traitements efficaces, en quelques semaines, c'était simplement peu réaliste. Ce qu'on a essayé de faire jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle du repositionnement de molécules déjà connues, parce qu'au moins, on a tout leur profil de tolérance, on n'a pas toute une recherche préliminaire à faire en se disant, avec un peu de chance, ça marchera. On teste, et puis ça n'a pas marché. Et maintenant, on est sur un temps plus long de la recherche, qui est vraiment de comprendre comment ce virus attaque l'organisme et où sont les cibles potentielles. Ça prend un peu plus de temps. Néanmoins, j'ai quand même, après avoir, je pense, pendant cette émission, été vraiment l'oiseau de mauvais augure, mais je voulais juste rappeler ce à quoi on fait face. Je serais quand même pas surpris qu'à cet automne, on commence à avoir des traitements qui soient efficaces sur les formes très graves de la maladie. Et ça, c'est important, parce que si on peut éviter la réanimation, finalement, et si le pire de ce qui peut arriver à des personnes dans les pays qui disposeront de ces traitements, hein, il faut garder quand même cette notion en tête, c'est une hospitalisation avec une oxygénothérapie par voie nasale, mais pas un passage en réanimation, on aura déjà fait des progrès. Et j'ai relativement bon espoir qu'à l'automne, on est quand même des molécules qui commencent à avoir une efficacité sur ces formes très graves de la maladie. Pour le vaccin, il faudra attendre, pour un vaccin efficace, il faudrait attendre 2021, et là, ce serait déjà une excellente nouvelle.
Professeur Yaboum 2, il vous reste hélas une minute. Aujourd'hui, en termes de prise en charge de recherche, c'est quoi le message que vous voulez faire passer, et justement, qui reprend la philosophie de cette tribune?
Écoutez, le message, c'est qu'il faut trouver des solutions adaptées au continent africain. En termes de diagnostic, comme je l'ai mentionné, mais également faire partie de ces essais cliniques, hein, pour que cette nouvelle molécule soit testée en même temps et en parallèle en Afrique, pour qu'au moment où on ait une efficacité, qu'on puisse savoir également dans notre environnement comment ça va marcher. Mais le dernier point également, c'est la sensibilisation. Et je suis très d'accord avec le professeur Fontanet, l'épidémie continue d'augmenter. Donc il est critique de continuer de sensibiliser pour limiter la transmission, diminuer la mortalité, même si elle est déjà basse, mais surtout assurer la continuité des soins. On a une épidémie de choléra actuellement au Cameroun, on a les morsures de serpent. Le Covid, ce n'est pas tout. Donc il y a d'autres priorités qui sont présentes et il est important de pouvoir être sur tous les fronts.
Et vous inquiétez pas, on est là pour en parler tous les jours dans Priorité Santé. Aussi, plaider pour l'accès aux médicaments où que l'on soit dans le monde. On vous remercie infiniment à tous les deux de nous avoir éclairés. Yaboum 2, en ligne de Yaoundé, où vous êtes directeur régional d'Épicentre pour MSF. Et merci beaucoup à vous, professeur Arnaud Fontanet. Quelque chose me dit qu'on pourrait se revoir à la prochaine rentrée. À très bientôt. Notre émission touche à sa fin. Demain, nous parlerons du Ségur de la santé. Dernière ligne droite pour cette concertation pour l'hôpital public en France. À demain.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.